On accueille Alexandre maintenant, 3921. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Vous avez quel âge Alexandre? Vous avez une toute jeune voix.
Oui, alors j'ai 24 ans exactement. Du coup, on va dire que je ne suis pas un grand habitué des radios, des médias de manière générale, mais ce moment est très important pour moi, et pas seulement pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai souhaité témoigner sur la situation actuellement en Colombie.
Oui.
Je suis résident en Colombie depuis un peu plus d'un an, et il est absolument essentiel pour moi de vous faire part de ce qui se passe ici. Alors, je sais que les histoires, jusqu'alors, étaient plus des histoires personnelles.
Non, mais vous savez, la libre antenne est ouverte à tout le monde. Donc, vous nous appelez de Colombie, là?
Exactement, je suis à Bogota. Donc là, il est, je crois qu'il doit être 16h environ pour moi.
D'accord.
Donc voilà, je crois qu'on a un point, on a deux points en commun, Olivier et moi, c'est qu'on est normand, premièrement.
Mm-hmm.
Et... un intérêt pour l'Amérique latine. Alors en fait, je vais essayer de lier mon histoire personnelle pour voilà, suivre un peu la dynamique de l'émission et en même temps essayer de vous raconter un petit peu ce que j'ai envie, besoin de témoigner.
Mmh. On vous écoute.
Très bien, merci. Alors en fait, je suis né d'une mère écossaise et d'un père français en Normandie, pas très loin de Rouen, il y a 24 ans. Et j'ai ensuite étudié le droit et j'ai décidé de partir en Colombie quand j'en avais 22. Après avoir terminé mes études en Écosse, je suis parti un petit peu sur, on va dire, un coup de tête. Envie de découvrir autre chose, d'apprendre une nouvelle langue. Donc je suis parti sans billet retour, sans espagnol et sans réel plan, mais avec une volonté... d'exercer des missions sociales, humanitaires, on va dire, en Colombie, et voire à long terme, plus en Amérique latine.
D'accord.
Donc,
pourquoi la Colombie? Pourquoi la Colombie
Alors, cette question est drôle parce qu'on me la pose environ 10 fois par jour. disons que j'ai pas l'air très colombien. Alors, en général, comme ce sont des gens qui sont très bienveillants, ils n'hésitent pas à venir nous parler, à nous les touristes, les étrangers. Et donc, pourquoi la Colombie? Cette question, je ne suis pas capable de vraiment y répondre. Disons que j'ai toujours ressenti un intérêt pour la Colombie.
Oui.
La culture d'Amérique latine est très présente en Colombie. La culture, la langue, comme je vous ai dit, c'était la volonté d'apprendre l'espagnol.
Oui.
Cette bonne humeur aussi, qui est bien connue dans le monde entier, la bonne humeur colombienne. Les Colombiens sont des danseurs, les Colombiens sont des gens qui sont heureux malgré les contextes, malgré les conflits. Malgré la pauvreté. Donc c'était une volonté aussi de ma part d'aller dans un pays comme ça pour découvrir une autre réalité qui est la mienne, qui est la nôtre. Et puis c'est ça, c'était commencer une nouvelle vie. Alors pourquoi la Colombie exactement, je ne sais pas trop. Je ne vais pas être capable de répondre avec précision, mais voilà.
Vous vous y plaisez.
Je m'y plais, ça c'est certain. Je suis parti fin 2019, j'ai fait des volontariats dans des projets sociaux d'enseignement de langue, d'anglais, de français. Et puis j'ai ensuite été prof de français à l'université.
Mmh.
Et finalement, l'université a fermé en mars 2020, Covid oblige. Donc je suis rentré en France et puis je suis retourné en Colombie il y a maintenant un peu plus de 2 mois, presque 3 mois. Et voilà, donc en fait, mon appel aujourd'hui, il résonne beaucoup avec ce que j'ai vécu ces derniers mois. Il y a environ 2 mois, j'ai commencé à m'intéresser avec un peu plus d'importance à la pauvreté, la misère qui touche notamment la ville de Bogota, parce que c'est là où je vis actuellement.
Mmh.
Bogota est une ville qui est absolument immense, où il y a des quartiers qui sont complètement abandonnés par l'État, des vrais ghettos. Et le contexte du Covid a évidemment empiré les choses. Je ressens la différence entre la première fois et la deuxième fois où je vis ici en Colombie, notamment à Bogota. Ça s'est empiré. Disons que c'était déjà un pays en crise, encore touché par les conflits. Ils ont signé un traité de paix en 2016, si je ne me trompe pas.
Toutes les milices, les FARC et tout ça.
Exactement, un traité de paix entre les FARC et l'armée colombienne et les paramilitaires, on va dire.
Mm-hmm.
Pour simplifier un peu l'histoire. Donc voilà, c'est un pays qui est encore touché quand même par ces conflits-là, qui a vécu beaucoup de pauvreté, d'horreur.
Mais malgré tout... C'est tout de même un pays qui a, pardonnez-moi de vous couper, mais qui a eu longtemps la particularité d'avoir un gouvernement central, hein, et d'avoir toutes ces factions dans la jungle qui imposaient un pouvoir parallèle à tous ces paysans et qui longtemps ont commis toutes ces exactions sur les paysans et ces enlèvements. On a longtemps entendu parler de la Colombie à travers cette situation qui était finalement chaotique complètement. Et lorsque il y a eu ce traité, on a pensé que les choses allaient s'améliorer. Donc visiblement, d'après vous, elles ne se sont pas...
Alors, je vais me permettre... Le but de l'appel aussi, il est de donner mon opinion, de témoigner. Alors, je ne suis pas colombien, ni journaliste, ni politique, mais je vais quand même me permettre d'essayer de faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé, on va dire, ces 20 dernières années, en tout cas ce que je vois, on va dire mon interprétation de ce qui s'est passé, parce qu'il y a évidemment des opinions divergentes. Alors, en effet, il y a eu un conflit qui a été très violent. Il y a eu, je crois, plus de 200 000 morts, 6 millions de déportés... C'était une catastrophe humanitaire absolument incroyable. Je crois que ça avait été qualifié de la part de l'ONU, pardon, de la catastrophe humanitaire la plus importante de ces dernières années. C'était vraiment pour la Colombie quelque chose d'absolument terrible. Je dis pas que c'est encore la même chose. Ce qui se passe, c'est que en effet, il y a eu un traité de paix entre les FARC et l'armée colombienne. Il existe toujours des armées dissidentes, notamment le LN, qui existe encore maintenant. Mais le problème, c'est que c'est un conflit qui a pris une dimension encore plus importante, où un président qui s'appelle, sans le nommer, Álvaro Uribe, qui a créé une sorte de milice parallèle, comme vous le mentionnez, qui s'appelle le paramilitarisme, en français,
oui.
Qui agit dans l'ombre, enlève, tue, pille, viole. Et ça existe depuis des années et ça existe encore maintenant. Donc, ça a été une armée qui a été créée dans l'ombre, on va dire, par le président colombien pour essayer de régler les conflits. Et elle existe toujours. Alors, le conflit entre les FARC et on va dire l'armée colombienne, officiellement, elle n'existe plus vraiment.
Mm-hmm.
Ce qui se passe maintenant, c'est que la population colombienne est toujours dans la pauvreté, dans la misère. Et on a affaire à un enchaînement de gouvernements établis dans un système très corrompu, établi dans un système qui n'est pas prêt de changer, un système très très bien établi, où finalement les mains de certaines personnes, comme l'ancien président que j'ai nommé avant, sont partout, contrôlent la justice, les médias, il y a très peu de liberté d'expression. Je crois que j'ai lu un article ce matin, je ne sais pas ce que ça valait exactement pour être honnête, mais je voyais que la Colombie était dans le top 10 des pays où la liberté d'expression était le moins respectée. Voilà, et donc si vous voulez, je commence à m'intéresser à ça. Et il y a environ, alors ça devait passer cette semaine, ça a été proposé par le gouvernement au Parlement, au Congrès colombien il y a une semaine ou deux, un projet de réforme fiscale prévoyant qui est complètement achevé en fait la population colombienne. Je vais parler avec des mots assez simples, mais c'est comme ça que les gens le ressentent et l'expriment, à savoir élargir la base d'impôts. Donc ça veut dire que, si je ne me trompe pas, un salaire mensuel d'1,5 million de pesos aller devoir maintenant payer des impôts. Avec 1 million de pesos, si je ne me trompe pas, ça doit être environ 300 euros. 300 euros, même en Colombie, on ne survit pas avec une famille avec ce salaire-là. Plus une TVA appliquée sur tous les produits, une TVA qui augmente et appliquée sur les produits même essentiels. À savoir que les familles qui ont déjà du mal à s'acheter un paquet de riz pour se nourrir, avec cette réforme fiscale, c'est plus possible. Donc voilà, comment tout a commencé, on va dire, ces derniers jours. Il y a eu des manifestations qui ont été organisées. Je crois que la première était le 28 avril. Et donc, les Colombiens se sont regroupés massivement dans les rues. Et il faut savoir qu'une culture, s'il faut comprendre aussi le contexte et la culture de manière générale d'Amérique du Sud et de la Colombie, c'est que la culture de la rue, elle n'existe pas comme elle existe en France. À savoir que si les gens se déplacent dans la rue, en général, c'est qu'ils n'ont vraiment aucune autre solution. En troisième pic de Covid, alors que la vague est en ce moment, j'ai vu que les services de soins intensifs sont full à presque 98% de toute la Colombie, les gens nous disent On préfère sortir à manifester, le Covid, ça n'importe plus, dans tous les cas, on va mourir. Donc, ça a commencé comme ça. Mmh. Ça a été très violent. Ça a été violent des deux côtés, évidemment, mais la violence que subit le peuple colombien quotidiennement et qu'elle est encore subir le peuple colombien les semaines, les mois, les années à venir, elle s'est fait ressentir dans la rue. Donc, plusieurs jours après, le président a décidé de retirer officiellement le projet de réforme fiscale pour en proposer une nouvelle. Voilà. Ça n'a pas calmé les ardeurs du peuple colombien, et on le comprend, parce qu'il y a encore une réforme de la santé, si je comprends bien, qui est censée copier d'une certaine manière le système de santé américain sans le niveau de vie américain, c'est bien ça le problème,
oui.
À savoir toujours plus de privatisation. Je crois qu'il est prévu à peu près la même chose sur l'éducation dans quelques mois. Donc voilà, on est en train de se servir du Covid pour piller les gens. Des gens qui sont déjà en difficulté, des gens qui sont capables de s'adapter, des gens qui sont capables de créer des nouveaux métiers. Je l'ai vu pendant le Covid, c'était assez exceptionnel. Des gens qui ont commencé à travailler énormément en ligne, à créer leur propre business comme ça, c'était vraiment, enfin, c'était impressionnant et c'est beau à voir. On va dire que le peuple colombien n'est pas un peuple qui se plaint. Après, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. On a tous le droit de se plaindre, on a tous le droit de revendiquer des droits. Disons qu'ici, c'est rare et quand c'est fait, c'est que les gens sont au bout. La réaction de l'État a été assez simple et meurtrière. Environ 30 morts depuis le début des manifestations, ah officiellement.
Oui. On n'en a pas entendu parler ici, c'est fou.
Et non, et voilà l'objet de mon appel. L'objet de l'appel, il est celui-ci. Je crois qu'il y a quelques médias que je ne vais pas citer, qu'on a commencé à parler, qu'on a diffusé quelques images, mais on est en train de parler d'une catastrophe humanitaire, de violation des droits humains. On est en train de parler d'un peuple qui donne l'autorisation à son armée d'aller dans les villes où la situation est plus compliquée pour avoir le droit de tuer.
Alors, voilà. Alexandre, on va s'arrêter là parce que l'info arrive et puis on va reprendre cette conversation dans quelques instants, d'accord ? Vous restez avec moi ?
Merci beaucoup.
À tout de suite. Nous sommes avec Alexandre qui nous appelle de Colombie, où il a élu domicile depuis 2 ans maintenant, parti pour apprendre l'espagnol. Alexandre, on sent que vous êtes attaché à ce pays, fortement même, et vous nous racontiez les mesures prises par ce gouvernement ultra corrompu depuis bien longtemps, ces nouvelles mesures visant à piller le peuple déjà très pauvre. Et vous évoquiez donc les manifestations depuis le 28 avril qui avaient fait 30 morts et dont ici nous n'avons pas entendu parler ou autrement très peu, parce que bon, moi je n'ai pas toujours le nez sur l'info, mais quand même sur les chaînes info continue, on n'a pas du tout parlé de ce qui s'était passé en Colombie. Ce pays, Alexandre, il a aussi une particularité, c'est qu'il y a une production de cocaïne et des cartels qui sont toujours présent, ou est-ce que ça s'est calmé? Et parce que cette corruption, elle est aussi l'argent corrompt. Et cet argent-là, il y a beaucoup d'argent issu de ce trafic. Est-ce qu'il est venu s'immiscer dans tout ça comme il y a 30 ans où ces cartels faisaient vraiment la loi et finalement arrosaient tous les politiques en Colombie, certains juges, certains journalistes, et puis quand ceux qui ne voulaient pas, ils les tuaient. Donc, est-ce qu'il y a toujours cette problématique en plus de ce gouvernement ?
Alors, rebonsoir. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste faire une petite remarque qui me paraît absolument essentielle, parce que vous l'avez mentionné. C'est un thème qui est peu évoqué dans les médias français. C'est un thème dont on peut parler en France. Et pour cette raison même, j'aimerais faire ce petit commentaire et vous remercier, vous et votre équipe, de m'avoir fait confiance et de me permettre de raconter cette histoire. Comme je le disais, c'est important pour moi, mais c'est aussi très, très important pour les Colombiens. C'est important que la communauté internationale, que les auditeurs premièrement, et ensuite d'autres médias, et la communauté internationale de manière générale, sache ce qu'il se passe à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment absolument essentiel. Donc c'était juste un petit mot pour vous dire merci, parce que c'est très, très important. Et je sais que vous faites votre métier, mais vous le faites bien, donc merci à vous. Pour répondre à la question, C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Je suis dans une position, en parlant avec vous ce soir, qui est un peu compliquée pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens parce que, disons que je veux témoigner, je veux faire part de ce qui se passe ici en Colombie pour qu'on en entende parler, comme je viens de le mentionner. D'un autre côté, je me sens avec pas tant de légitimité pour pouvoir rentrer dans des détails comme cela. Je peux vous dire ce que moi je pense. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité ou c'est
Oui,
ce qui se
oui.
passe réellement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement ce qui se passe. Ce que je sais ou ce que je semble comprendre, ce que je vois dans la plupart des documents, des preuves qui sont sorties par les différents journalistes qui ne sont pas encore exilés ou assassinés par le gouvernement, c'est que les productions de drogue, non, elles n'ont évidemment pas arrêté, ça c'est certain, les productions de cocaïne. Ce qui se passe, c'est que maintenant on a un gouvernement, et même à l'époque de Pablo Escobar, que tout le monde connaît, on a un gouvernement qui profite de cette production-là. Il y aurait des preuves comme quoi l'ancien président, dont je vous ai déjà parlé, possède lui-même des terrains avec des centaines de milliers d'hectares en Colombie
Oui.
de production de cocaïne.
Oui.
Donc là, on parle en fait d'un gouvernement qui, à la face de tous, va condamner ces productions,
D'un
c'est la
narco-gouvernement.
vente, la consommation, exactement, mais qui en profite énormément pour s'en mettre dans les poches, pour financer ses manœuvres. Comme vous l'avez très bien dit, c'est la justice, c'est les médias, c'est tout ça. Donc il est là aussi le problème. Quand je vous parlais d'un système qui était très bien établi, c'est que premièrement, il est corrompu. Il est corrompu par de l'argent sale. Il est là aussi le souci majeur de la Colombie. C'est que j'aurai peut-être l'occasion d'en revenir un peu plus tard sur les aspects positifs de la Colombie, parce que le but de cet appel, il n'est aussi pas de faire peur aux gens ou de donner une image qui est négative, mais c'est le problème aussi du traitement médiatique de la plupart des situations qui ont lieu maintenant. C'est que on entend des infos, ça reste en tête, et puis on développe très vite une image négative. La Colombie a parfois encore une image négative, mais la Colombie, pour tous les gens qui ont la chance d'y mettre les pieds, c'est un pays qui est merveilleux. C'est un pays qui
Tous
a...
les gens que je connais qui y sont allés, soit pour y travailler, soit pour simplement aller en vacances, hein, découvrir la Colombie, ont trouvé vraiment la Colombie merveilleuse et très safe, hein, en plus. Hein,
Elle est merveilleuse, la Colombie. Je vais même aller plus loin. La plupart, j'ai pas eu la chance, l'opportunité encore de visiter d'autres pays d'Amérique du Sud, mais la plupart des gens qui visitent beaucoup de pays en Amérique du Sud me disent la Colombie, il y a quelque chose de différent. C'est une atmosphère particulière. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais les gens sont adorables en Colombie. C'est des gens qui sont heureux. Encore une fois, j'ai vu il y a quelques mois dans un article que le peuple colombien était un des plus heureux au monde. Vous imaginez dans ce contexte-là? C'est un peuple qui, c'est aussi un pays qui a la chance d'avoir une diversité au sein de son propre territoire. Chaque département, chaque ville de Colombie connaît une diversité d'accents, de couleurs de peau, de nourriture, de danse. À chaque départ, de climat aussi. On traverse les frontières entre deux départements, frontières entre guillemets, et on passe d'un pays à un autre. Donc c'est ça aussi la Colombie, c'est son charme. C'est des productions de fruits qui sont absolument exceptionnelles. On trouve des fruits en Colombie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a l'Amazonie en Colombie, il y a la côte, il y a des
Alors
montagnes,
Alexandre, comme on
il
n'a
y a des eaux sportives.
pas comme on n'a pas une heure pour vraiment, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous
Bien sûr.
constatez là vraiment sur le peuple, tout ce qui se passe et comment vous voyez la chose tourner, parce que vous décrivez une situation très grave.
Si vous
Comment
voulez,
ça
pour
peut
moi,
se passer?
ça va ensemble. Ça va ensemble tout ça, parce que ça fait partie d'un
Bien
contexte,
sûr, bien sûr.
et le fait que les gens soient comme ça de manière générale, ça fait aussi partie de ce contexte-là. Alors, on va revenir sur les événements qui se passent actuellement, parce que c'est absolument dramatique. Je vais vous donner un exemple. Un garçon qui s'appelle Lucas Villa, qui vient d'une ville qui s'appelle Pereira. Et cette ville-là, elle subit la présence encore nombreuses, importantes, des paramilitaires, à savoir, comme je vous ai un peu indiqué au préalable, une armée qui a à peu près tous les droits, on va dire l'excuse, ou en tout cas la raison de son existence, lutter contre le narcotrafiquant. Bon, il se trouve que dans cette ville-là, hier soir, cette armée-là a été envoyée pour calmer les manifestants, comme ça a été dit. Et donc, Lucas Villa, c'est un jeune qui étudie l'équivalent de STAPS en France, sciences des sports, et il allait dans les manifestations régulièrement pour mettre un peu de bonne humeur. Donc, il se mettait à danser, comme beaucoup de Colombiens font ici. Il se mettait à danser dans les manifestations pour mettre un peu de bonne humeur. Je le vois régulièrement aussi à Bogota. Hein. C'est beaucoup de musique, de gens qui dansent, des gens qui manifestent, qui crient parfois, qui sont tristes. Il y a tout. Ce jeune homme-là, il était là, il était dans cette manifestation pour cette raison-là, parce qu'il voulait réclamer ses droits. À une certaine heure de la nuit, il a été alors, une certaine heure de la journée, pardon, d'abord, il a été pris en vidéo alors qu'il était en train de tirer la main aux policiers et leur dire qu'il était en train d'essayer de leur dire on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis, on fait tous partie du même pays. Quelques heures après, une des dernières vidéos de lui, c'est une vidéo où il dit que la Colombie est en train de nous tuer. Quelques minutes après, il s'est pris 8 balles. Il est actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort, et en train de lutter pour rester en vie, avec très peu d'espoir. Il est en état de mort cérébrale. Et il est en train de devenir le nouveau visage, le nouveau symbole de ces manifestations, de ce début de révolution.
Oui.
Et des jeunes comme lui, des jeunes comme Lucas, il y en a plein. Son ami aussi s'est fait tirer dessus, si j'ai bien compris la situation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 30 morts pour l'instant officiellement. Je n'ai même pas mentionné encore ces quelques femmes qui se sont fait violer par des policiers ou par l'armée colombienne pendant les manifestations. Ça a été prouvé, je crois qu'il y a même eu un mot d'excuse de la part du gouvernement à propos d'une de ces femmes qui s'est fait violer par la police. Donc c'est ça la situation en Colombie actuellement. C'est une situation qui est encore une fois dramatique parce qu'on est en train de tuer des gens qui veulent survivre. On leur dit ne sortez pas, il y a Covid. On est en troisième pic, c'est vrai. En ce moment, le Covid ici, c'est compliqué. Ne sortez pas, il y a le Covid. Les gens n'ont pas le choix de sortir. C'est aller dans la rue, réclamer des droits ou mourir lentement. Réclamer des droits maintenant, c'est aussi veut dire en Colombie, en 2021, réclamer ses droits et aller dans la rue et aller manifester, ça veut dire prendre le risque de mourir. Donc elle est là. C'est ça la situation en Colombie actuellement.
C'est d'une tristesse infinie. C'est d'une tristesse infinie.
Aucun être humain ne mérite un tel traitement. Évidemment, pour moi et pour beaucoup de gens, notamment beaucoup de Français qui ont eu la chance de connaître la Colombie, ça prend une dimension encore différente, une ampleur encore plus importante. Parce que même, comme je le disais, même si personne ne mérite de vivre ça, on parle d'un peuple qui essaye de vivre et un peuple qui est heureux. C'est pour ça que je tenais à insister aussi là-dessus. C'est parce que ça rend la situation évidemment encore plus triste. Et voilà, elle est là, la situation.
Comment est-ce que vous allez faire là, dans les jours qui viennent? Vous allez rester en Colombie pour témoigner parce que ce soir... Quelque part, vous prenez aussi un risque hein, de témoigner ainsi, parce que je suppose que votre voix va être relayée, hein, parce qu'il y a des Colombiens ici en France, il y a même l'ambassade de Colombie, donc votre témoignage va être rapporté. On peut craindre, lorsqu'on témoigne comme vous ce soir, pour son intégrité physique ?
On peut craindre, sûrement. Mais on craint encore plus pour sa vie quand on est colombien et qu'on n'a rien pour vivre et qu'on va dans la rue. Donc très honnêtement, moi comme la plupart des étrangers qui viennent en Colombie, on n'est pas dans des situations malheureuses.
Oui.
Moi j'essaye de m'intéresser parce que je vis ici, c'est pas pour profiter des richesses de la Colombie et rester et repartir, faire ce que j'ai à faire et repartir, c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est aussi m'intégrer dans le pays. C'est même pas une volonté de ma part. C'est un besoin. Et c'est comme ça que je me sens aussi intégré au pays. J'aime ce pays. J'aime ce pays comme j'aime la France, comme j'aime l'Écosse qui est le pays de ma mère. J'aime absolument ce pays pour différentes raisons. Oui, peut-être que c'est un risque, mais j'espère que ma voix va être écoutée, j'espère qu'elle va être transmise, j'espère avoir l'opportunité de continuer à en discuter, j'espère avoir l'opportunité aussi en Colombie de continuer à échanger avec les gens ici qui souffrent, j'espère avoir l'opportunité de sortir pour aller marcher avec eux. Voilà, elle est la situation. Après, oui, je sais pas quoi dire de plus. C'est vrai que tout est dangereux. Dans un pays où la liberté d'expression, elle est violée, la liberté d'expression, elle n'est pas respectée, parler est un risque, ça c'est certain.
Merci Alexandre de votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci pour cette voix qui résonne de loin, mais qui nous met, nous, au courant d'une situation que la plupart ignoraient. Bien évidemment, je vais vous conseiller de faire attention à vous si vous allez marcher avec les Colombiens. Je sais, en tout cas, parce que ces pays, le Venezuela voisin, est en train de sombrer depuis longtemps. Bon, on a un schéma politique différent, mais il y a comme un relent similaire, parce que c'est aussi la corruption, c'est aussi la liberté d'expression qui a été souillée, tuée au Venezuela. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis vénézuéliens qui ne peuvent même pas retourner au Venezuela parce que le Venezuela est plongé dans un... est totalement isolé, est en train de sombrer sous la coupe de fascistes, en tout cas de militaires. Souhaitons en tout cas qu'ils n'en adviennent pas de la même manière à cette Colombie, cette belle Colombie.
Est-ce qu'on peut leur en souhaiter, et c'est une très bonne remarque, pardon, c'est une très bonne transition qui va même me permettre d'ajouter un dernier point. Le Venezuela est aussi dans une situation terrible, si je peux me permettre, encore pire que la Colombie, parce que l'économie, la monnaie vénézuélienne ne vaut plus rien. Je vois des Vénézuéliens dans la rue ici, qui fabriquent de l'origami avec des billets de banque vénézuéliens pour le vendre à quelques pesos. Donc c'est pour dire à quel point la monnaie ne vaut plus rien. Mmh. S'ajoute à cela le danger de mort pour n'importe quelle personne qui ose ne pas obéir au gouvernement. Et en fait, c'est une parfaite transition parce que il est aussi là le problème le colombien actuel et depuis quelques années, c'est qu'il est aussi sujet à une immigration massive qui concerne des millions de Vénézuéliens qui migrent dans toute l'Amérique latine parce qu'ils n'ont pas le choix, et notamment en Colombie parce que c'est proche aussi. Il est là aussi le problème colombien, c'est qu'on est déjà dans un pays où il y a la misère et ils sont sujets à une immigration massive. En Europe, on a eu du mal à gérer cette question migratoire-là. On a eu du mal à accepter parfois dans certains pays quelques milliers de migrants. Ici, on parle de millions avec des frontières.
De millions, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens en Colombie pour gérer
tout
ça.
Exactement. Et en plus, un gouvernement aussi en Colombie qui profite de ça. Je vais juste, du coup, me permettre d'ajouter un dernier point qui rentre absolument dans le sujet. Et c'est que justement, sur cette question-là, il y a plusieurs semaines, avant que tout ça ait lieu, en fait, avant que le début des manifestations, avant qu'on parle même de réforme fiscale, j'ai organisé une cagnotte sur l'Itchi, qui est donc une cagnotte en France, où j'explique la situation en Colombie et Venezuela, qu'il faudrait que j'actualise d'ailleurs maintenant avec les événements récents. Une cagnotte qui me permet de récupérer un peu d'argent pour organiser des distributions de nourriture dans les quartiers les plus pauvres de Bogota. Donc j'ai eu la chance déjà d'être relayé plusieurs fois par quelques médias locaux.
On va la relayer, cette cagnotte. Vous restez en ligne.
C'est très important. Il faut savoir que n'importe quel euro compte. N'importe quel euro, je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Surtout, avec les différences, vous savez, de valeur de monnaie.
Oui.
5 euros, c'est un repas pour une famille, pour une personne.
Oui.
Pour une semaine, pardon. C'est absolument essentiel.
Vous restez en ligne, Alexandre, et vous allez donner à Florian ou à Natacha toutes les coordonnées, en tout cas comment on peut aller sur cette cagnotte. Et chaque euro compte, parce qu'un euro là-bas, c'est beaucoup, beaucoup, chers amis. Alexandre, prenez soin de vous, faites attention à vous, et merci pour... ce témoignage
fois,
vous aussi c'est très important et c'est ce pourquoi on voulait vous donner la parole ce soir. Portez-vous bien et faites attention à vous, Alexandre. Au revoir.